Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
Bonjour Pierre Compagnie.
Oui, bonjour Sally.
Comment ça va ?
Ça va. Et toi ?
Ça va, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu as un agenda très très chargé. Alors, pourquoi j'ai décidé de t'inviter ? Parce que je pense que les jeunes ont besoin d'entendre des personnes qui ont plus d'expérience qu'eux au vu des élections qui arrivent dans quelques mois. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ?
Mais les personnes qui ne me connaissent pas encore, bah, je crois que ces personnes-là sont nombreuses, sans doute. Mais je suis un ancien de Bruxelles. Ça fait depuis 1975 que je suis là.
Ah ouais.
Donc, c'est une belle référence. Et si on ne me connaît pas, c'est qu'on n'a pas roulé dans mon taxi quand j'étais étudiant, ou bien on n'a pas fait attention à tout ce qui se passe à la télévision. Alors, pour moi, Sally, mon parcours est trop long. Ça empêcherait les gens de suivre. Sinon, il y a un livre qui est paru quand j'ai été élu bourgmestre de la commune de Gansoren.
Okay.
Ça s'est dit partout. Le premier noir élu en Belgique comme bourgmestre, et ainsi de suite. Il y a un livre qui retrace tout ça depuis le début où j'étais enfant pour voir mon parcours.
Le message est clair en tout cas.
Ah, ben jeune homme, maintenant je voudrais aussi savoir qui tu es.
Alors, moi je m'appelle Sally, j'ai 20 ans. Je suis étudiant en sciences politiques en deuxième année en bachelier. Je suis impliqué dans la politique au niveau des jeunes. Ça fait plus ou moins un an, on va dire. Mais je suis chez les engagés, Génération Engagée, depuis plus ou moins un mois et demi. En dehors de la politique, je suis arbitre de foot chez les jeunes, un secteur qui est aujourd'hui en difficulté aussi, malheureusement.
Mais très bien.
Alors, Pierre, comme on a fait connaissance, maintenant on peut passer à la séquence suivante, le sujet d'actu. Alors, sur quel sujet aimerais-tu parler aujourd'hui ?
Mais aujourd'hui, il serait bien dommage que je ne parle pas de la sécurité, parce que c'est ça le sujet du jour, d'hier, d'avant-hier, et rappelez-vous du match contre la Suède.
Exact.
Donc, tout ça, ça finit par s'accumuler dans la tête des citoyens et citoyennes.
Mmh.
Alors, en ce qui concerne la sécurité, j'ai assumé la fonction de bourgmestre, qui est une fonction totale au niveau de la gestion. Si le premier ministre gère tout le pays, le bourgmestre, il gère toute sa commune, et j'oserais dire à tout point de vue. Alors, donc, dans ce contexte, la sécurité a toujours une part importante dans la gestion journalière. Et au Parlement, je suis dans la commission Affaires intérieures, justement, qui parle de la sécurité, où l'on a eu l'opportunité de faire des auditions pour des problèmes particuliers et très embêtants, pour les pompiers, pour les agressions, ainsi de suite. Donc, si je dois parler de la sécurité, c'est pour dire tout simplement que la population, les citoyens et citoyennes, doivent se rassurer que ceux qui s'occupent de la sécurité font beaucoup d'efforts pour que les dérives n'inondent pas la vie des citoyens et citoyennes. Ici, nous sommes à Bruxelles, hein, je parlerai de Bruxelles, mais bon, c'est la Belgique. On doit rester serein là-dessus. Mais n'empêche, il y a des efforts à faire. Et ces efforts, c'est dans l'attention qu'on fait par rapport à la jeunesse. La jeunesse est directement concernée parce qu'elle peut rentrer facilement dans toutes ces dérives si elle ne trouve pas son cadre de vie correct. Et ça, on pourra en parler longuement. Mais voilà, j'ouvre le débat.
Ok, et est-ce que je peux te poser une question ? Surtout au niveau fédéral, comme tu vas te présenter au niveau fédéral, quelles sont pour toi les mesures à prendre ?
Ah, le niveau fédéral a une certaine importance. Cela ne dit, c'est pas pour autant que le niveau régional n'a pas de l'importance.
Bien
mais
sûr.
Il y a des décisions qui se prennent à certains niveaux. Il y a au niveau régional des décisions à prendre. Au niveau fédéral, le chapeau à mettre sur les décisions. Et je crois, si je vais vers le fédéral, c'est parce que quelque part, il y a lieu de parler directement des problèmes et voir comment on les résout. Parce que chaque fois, à la région, il y a un moment où on dit « ça dépend du fédéral ».
Exact.
Et cette fois-ci, c'est au fédéral que je voudrais mettre la possibilité de participer à la compréhension et l'évolution de la sécurité dans le pays. Et surtout, appuyer ma façon de voir sur l'éducation de la jeunesse. Pas pour aller éduquer la jeunesse dans les écoles et ainsi de suite, mais non, sur ce qu'on fait pour la jeunesse, pour que cette jeunesse connaisse une évolution normale et satisfaisante. Et là, on pourra peut-être demain compter sur des citoyens qui seront très attentifs à ce qui se passe dans leur milieu.
Donc si j'ai bien compris, ça passe par l'enseignement et l'éducation.
Oui, ça passe par l'éducation.
Surtout l'éducation.
Oui. Ça, c'est une réalité. Il est vrai que à mon niveau personnel, quand j'ai été bourgmestre, député en même temps, j'ai pu, à certains moments, parler au ministre concerné, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Mmh. J'avais toujours un conseil, une formulation, une demande. C'était qu'on devait arriver à regarder vers ce que Philippe Claus dira plus tard, les grands frères. Mais moi, c'est écrit dans les rapports du Parlement, en commission affaires intérieures. C'est bel et bien écrit que j'ai demandé ça depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que j'entends par petits frères et grands frères? C'est une idée qui m'est venue surtout quand il y a eu Covid. Okay. Parce que là, en ce moment-là, on a réalisé la difficulté qu'il y avait de garder les enfants dans des maisons pas du tout spacieuses. Et ces enfants, même dans les familles où il y avait plus d'enfants qu'ailleurs, ces enfants ont été tenus à l'œil par leurs frères et leurs sœurs, les grands frères et les grandes sœurs. Parce que je crois que vous avez encore en tête l'idée de ce qu'était la vie quand il y avait le confinement.
On se rappelle très bien, oui.
Ah oui, mais alors quand on est jeune, mais tu es encore jeune, je crois qu'il y a eu des moments où tu as fait peut-être des bêtises, mais j'espère que tu en as fait beaucoup. Tu n'en as pas fait beaucoup. Bon, donc il fallait tenir tout le monde chez soi. Quel est le parent qui peut tenir pendant qu'il va travailler en plus, qu'il essaie de travailler parce que parfois il fallait ne pas y aller, tenir 2, 3, même 1, 4 enfants dans la maison et encore dans un appartement.
C'est un vrai défi.
À l'étage. Donc, tout ça, c'était les plus grands qui ont aidé à ce que la situation se passe avec moins de casse. Mon idée était simple, c'était il faut valoriser tous ces jeunes. Comment les valoriser? Arriver à faire un système où ces jeunes, chacun dans sa commune, chacune dans sa commune, on les prend, ceux qui veulent, et on en fait en quelque sorte des éducateurs parce qu'ils doivent encore apprendre. Des agents d'accompagnement, non, parce qu'ils doivent encore apprendre. Donc ces jeunes, on les mobilise, ils répondent à certains critères, et on leur fait un emploi, on leur crée un emploi, pas un emploi de 6 mois, parce que 6 mois c'est vite passé, pas un an, un emploi de 2 ans.
Sur le long terme.
Sur le long terme. Et de là sortiront des gens qui ont l'âme à faire les contrôles, à travailler, ils connaissent des terrains. Et puis là-dedans, ces jeunes gens passeront d'une commune à l'autre et on les interchange pendant qu'ils subissent cette formation. Aller surveiller les rues, marcher, accompagner les personnes âgées ou voir ce qui ne va pas. Et là-dedans, il y aura des gens que l'on peut facilement amener vers la police ou autre chose. Et c'est l'idée que j'avais lancée, les grands frères et les grandes sœurs qui peuvent être ainsi employés, mais pas pour leur raconter des histoires de 6 mois, parce qu'en 6 mois, on ne fait rien. Il faut qu'il ait une certaine certitude de ce qu'il fait, quitte à ce que même s'il change, il prend un autre travail, un autre boulot. C'est bien, c'est toujours bien. Voilà.
Là, quand on regarde du côté de l'emploi, c'est aussi une émancipation pour eux.
Oui.
Et donc, comme tu as dit, moi, je suis totalement d'accord à cette idée de grand frère ou grande sœur.
Oui, de toutes les façons, quand il y a eu la manifestation ici, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Claus, il a parlé des grands frères. Mais quand il en parlait, moi j'en avais déjà parlé déjà au moins 6 mois, 1 an avant.
Il a repris ton idée alors?
C'est un homme que j'aime bien, donc il peut reprendre mon idée. Okay. Et s'il veut, moi je peux venir encore implémenter... que l'idée devienne une réalité.
Donc c'est un appel à Monsieur Philippe Claus alors.
Ouais, mais Philippe Claus, je connais bien. Donc je sais pas. Mais non, c'est à ton tour, Sally. Dis-moi, de quoi tu veux parler?
Alors le sujet d'actu que j'ai choisi, Cette semaine, j'ai vu un article par rapport au nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise. En 2022, une étude a été faite et le meilleur endroit pour le stade, ce serait sur la commune de Forêt. Et donc, il y a des discussions entre le club, la commune et la région bruxelloise depuis un certain temps. Et récemment, on apprend, notamment par la secrétaire d'État chargée d'urbanisme, que les discussions étaient au point mort. Et donc moi je trouve ça un peu agaçant qu'un club comme l'Union Saint-Gilloise, qui a une grande histoire, qui aujourd'hui est en première division en Belgique, joue l'Europa League. Par exemple, la semaine prochaine, nous avons l'Union Saint-Gilloise contre Liverpool. Mais comme le stade ne répond plus aux normes européennes, c'est-à-dire aux normes de l'UEFA, l'Union Saint-Gilloise va devoir jouer dans le stade d'Anderlecht. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage.
Bon, mais ouais, c'est très gentil de ta part. Mais on sent bien que tu as un sentiment particulier de supporter d'un camp ou de l'autre. Hein. Ça, c'est pas mon problème. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que dans la vie, je crois que tout ne se décide pas comme l'on veut. Mmh. Et puis, tu as parlé d'une expertise qui donnait place à ce stade-là, à Forêt. Mmh. Bon, déjà, l'Union Saint-Gilloise est déjà à Forêt. Ça, tu le sais, hein ?
Oui, bien sûr.
Oui, oui. Mais c'est pas ça la question. Le problème, c'est qu'il y a l'urbanisme d'un côté. Il y a la demande de construire un stade de l'autre. Mais l'urbanisme n'est pas tout à fait l'élément déterminant. Il y a à côté la population, et vous connaissez les mouvements citoyens. Et ces mouvements, quand ils se mettent en route, ça peut retarder beaucoup de choses. N'oubliez jamais que le stade Roi Baudouin, qui devait être refait ou travaillé, peu importe, si vous avez bon souvenir, il a suffi qu'on brandisse un problème d'un sentier, et à cause d'un sentier, tout a été bloqué. Mais un sentier qui n'existait presque plus. Mais il était dans les archives.
Mais donc,
Donc ici, oui, vas-y.
Concrètement, est-ce que l'Union Saint-Gilloise devrait continuer à jouer dans ce stade qui ne répond même plus aux normes de l'UEFA?
Il ne répond pas aux normes de l'UEFA, ça c'est vrai. L'Union Saint-Gilloise mériterait un terrain, ça c'est vrai. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que nous sommes dans des villes. Et la problématique de la ville, c'est que, j'ose exagérer, tout a été déjà construit avant que l'on ne pense à l'organisation sportive. Mmh. Je t'en donne pour exemple, si tu vas en Hollande, souvent tu as l'impression qu'ils ont commencé par laisser l'espace pour les sports, et puis ils ont construit.
Le reste, ok.
Le reste. Je crois que si tu vas à PSV Eindhoven, tu vas trouver un espace énorme. Ajax, tu vas trouver un espace énorme. Donc, comme si les villes étaient construites après la conception, le concept sport.
Sport, ouais.
Oui. Mais nous avons tout construit. Mm-hmm. Et puis quand on a fini de construire, on commence à placer des stades. L'exemple d'Anderlecht, qui est complètement confiné. Mm-hmm. L'Union Saint-Gilloise dont on parle, et d'ailleurs le vrai problème de l'Union Saint-Gilloise, c'est qu'ils sont sur un site protégé.
Okay.
C'est pour ça que l'Union Saint-Gilloise, tu ne peux pas aller là, l'Union Saint-Gilloise, dire « Bon, mais je trouve que la cafétéria est petite, maintenant il faut qu'on on la grandisse. » Tu ne pourras pas.
Moi, donc, j'ai envie de partager une anecdote.
Oui.
C'est que moi, depuis un an, je suis arbitre de foot chez les jeunes. Mmh. Et j'ai eu l'occasion d'arbitrer un match de foot dans les infrastructures jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Mmh. Et quand je suis parti là-bas, c'était hallucinant. C'est ancien, ça sent mauvais. C'est... Désolé, mais j'ai arbitré dans d'autres clubs et c'était pas comme ça.
Oui,
mais... je pense qu'on se referme un peu en disant ok, il y a des problèmes de placement, etc., d'urbanisme, mais je pense qu'aujourd'hui il faut faire des choses concrètes.
Ça c'est vrai, il faut faire des choses concrètes, mais autant la volonté pour l'Union Saint-Gilloise y est, autant sans doute les moyens y sont, mais il y a l'aspect humain qui est là aussi. Donc je t'ai dit, nous construisons dans la ville, dans la cité, alors que ailleurs on a laissé des espaces vides pour le sport. Donc le conflit est là, c'est pas toujours évident. À un moment, j'ai cru qu'ils avaient gagné. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a encore, il y a des négociations en secret. Bon, qu'est-ce que ces négociations vont ramener? Si demain, il y a des gens qui amènent encore des jeux moins bruyants que le football, mais qui ramènent du monde là, de ce côté-là, il y aura encore beaucoup de complications pour laisser la place.
Mais donc, la secrétaire d'État, au Parlement bruxellois, cette semaine, a dit en commission de développement territorial que les discussions, enfin, les négociations étaient très difficiles.
Elle a dit très difficile, mais elle a ajouté aussi que ça se continue en secret. Donc, il y a la discrétion là-dedans.
Okay.
Parce que la réalité, c'est que si tu oses sortir ton histoire, demain, tu as les mouvements citoyens qui sont en droit de réclamer, de revendiquer. Tout ce qu'ils disent n'est pas monté de toutes pièces. Hein. Ce qu'ils disent, c'est souvent ce qui va arriver.
Il faudrait alors une concertation citoyenne au centre de ce projet aussi.
Il faut que au conseil. C'est vrai, mais les citoyens semblent dire que c'est pas l'endroit. Mmh. Alors, c'est pour ça que ça dure. Okay. C'est pour ça que c'est pas évident. Okay. Donc, les hommes politiques, à un moment, ils se disent, je fais quoi? La population répond, ben, tu ne fais rien. Mmh. Et le choix reste entre les hommes politiques et les négociateurs de l'autre côté. Mais est-ce qu'ils peuvent convaincre les gens que...
Et donc, est-ce que tu es optimiste par rapport à la situation ou pas?
Vous savez, dans ce genre de choses, il faut jamais, jamais mettre sa main au feu. Parce que peut-être que si les investisseurs augmentaient les moyens de façon inattendue et que la commune y trouvait un intéressement par rapport à ce qu'ils vont installer, pas seulement le stade. Vous avez compris ce que je veux dire.
Exact.
Bon, donc, si vous amenez une flopée de magasins, je sais pas moi, vous prenez des supermarchés, des trucs comme ça, vous les amenez à côté du stade. Bon, peut-être, ça se discutera. Mais il faut pas que le stade fasse beaucoup de bruit et que la circulation reste fluide. Et là, c'est pas gagné.
En tout cas, merci beaucoup, Pierre Compagnie, pour ces explications. C'est vraiment plus clair. Je pense qu'on peut passer à la séquence suivante, le questionnaire de comptoir. Alors Pierre, t'as dû répondre à un questionnaire, et donc à partir de ce questionnaire, pour savoir quel homme politique es-tu? Et donc la réponse est que tu es une personne empathique et soucieuse de la justice sociale.
Je pense que là c'est une réalité, sinon je ne ferais pas de la politique.
Okay.
Sinon je serais même pas en politique, parce que être simplement rationnel ou être intelligent ou être décideur, être leader, ça c'est les jeux de ceux qui n'ont pas la capacité de comprendre que la politique c'est surtout socialement un acte important qui amène tout le monde vers le vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, il y a du tout. Tout, c'est-à-dire, il y a ce qui est scientifique, ce qui ne l'est pas, ce qui est rigoureux, ce qui ne l'est pas. Et être capable de brasser tout ça, ça, c'est la personne que moi, je préférerais. Donc, d'où j'ai... c'est peut-être une caractéristique, hein, l'empathie, et ce qui fait de moi peut-être aujourd'hui une personne que les gens peuvent rencontrer, parler, même quand on me dit des choses que je n'ai pas bien comprises, mais je reste toujours, je dirais, égal à moi-même. Je t'écouterai même si tu me dis des choses que je ne comprends pas.
Et juste pour me dire sur les résultats, moi je pense que l'empathie et la personnalité politique ont des liens. Pourquoi ? Parce que quand tu es une personnalité politique, tu dois comprendre la population, les attentes de la population. Et pour ça, tu es obligé d'être empathique. Sinon, ça fait de toi un mauvais politicien. En tout cas, c'est mon avis.
Mais ton avis est le mien.
Merci beaucoup pour tes réponses, Pierre Compagnie. Je pense qu'on peut passer à la séquence suivante. Que ferais-tu si tu étais ? Alors, la question que j'ai choisie pour toi, Pierre, c'est que ferais-tu pour favoriser l'inclusion et la diversité culturelle en tant que ministre de la Culture ?
Ah, ça, c'est un sujet très intéressant. Il est vrai que la culture, c'est le problème de tout le monde. Malheureusement, parfois, certains passent à côté, à côté de ça. Du moins, quand ils ont la responsabilité de gérer la culture. Moi, si j'étais responsable de la culture, ben, je ferais que la culture mondiale fasse partie du vécu ici. Je favoriserai les facilités interculturelles. Et j'apprendrai, quiconque veut l'entendre, que la culture n'a pas de frontières. Et puis, toute culture mérite respect.
La culture n'a pas de frontières.
Oui.
Donc, par exemple, un Russe et un Belge ont la même culture ?
Non, c'est pas ça. Quand je dis l'universalité de la culture, c'est-à-dire... Oui. En chacun, il y a de la culture. Dans chaque communauté, dans chaque groupe, il y a de la culture. Une culture du pays, comme tu as cité les deux pays, tu as ça, c'est toute une enveloppe.
Ouais.
Mais qu'on ne se renferme pas sur sa petite enveloppe. Que l'on soit capable de laisser s'exprimer la culture russe, ne pas y faire ombrage tout de suite.
Okay.
Que le Russe écoute le Belge sans se dire « c'est encore quoi ça ?» Parce que la culture est multiple et pour moi, c'est un véritable trait d'union. Je donne l'exemple pour vous les jeunes. Vous avez maintenant votre musique. Hein. Et puis, parfois, il y a des gens qui chantent trop vite. Nous, parfois, on ne comprend même pas ce qu'on est en train de dire.
Exemple.
Mais tous les gamins de 12, 13, 14 ans, ils chantent aussi vite que les gens là qui chantent que nous, on ne comprend pas.
Le rap, par exemple.
C'est tout ça.
Ok.
Oui, oui. Alors, c'est ça la culture. La culture, elle a quelque chose qui unit les êtres humains.
Mmh. Mmh. Je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, à Bruxelles, je pense qu'on doit être ouvert à la diversité culturelle. Parce qu'il y a tellement de personnes qui sont d'origine étrangère ici que chaque personne a une identité grâce à sa culture, je pense.
La culture, elle a quelque chose de...
Moi, je dirais plutôt complémentaire.
Voilà, voilà. Donc, aimer la culture, et si j'étais responsable de la culture, je la pousserais au fond. Bon, il n'y a pas que la musique, hein. Il y a aussi les théâtres, il y a...
Les danses.
Les cinémas.
La gastronomie.
Oui, tout ça fait partie de la culture. Ne laissez pas dire à quelqu'un « Ouais, ben je ne veux pas manger ça parce que c'est mauvais. » Mauvais comment? Tu ne l'as jamais goûté.
Tu ne l'as jamais goûté.
Mauvais, oui, mais il y a des millions de gens qui mangent ça. Hein? Alors, respect.
Alors, je pense qu'on a fait le tour de la culture, là. Et donc, je propose qu'on passe à la séquence suivante, qui est la personne inspirante. Pour toi, qui est la personne inspirante ?
Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est Nelson Mandela. Ça, je l'ai suivi pendant très longtemps, même quand il était en prison.
Mmh.
Et je pense qu'il n'y a pas plus inspirant pour moi que Nelson Mandela, dont j'ai été même été à son enterrement.
Ah ouais.
Pour qui j'ai été à son enterrement.
Okay.
Pour ça, bon, évidemment, il fallait que mon fils... me disent, voilà papa, on sait que tu aimais bien, parce que j'avais des livres dans la maison, leur maman m'offrait ce type de livres. Et quand il me dit, si tu veux aller à son enterrement, je vais payer, eh ben moi j'étais heureux. J'ai amené un ami qui était professeur de français dans l'école où j'étais au départ, aux arts et métiers, où j'ai enseigné. Et lui, il fait photographe, journaliste, surtout pour les motos. Et nous sommes partis ensemble. Et je crois que ça a été un moment formidable pour moi. En dehors du fait même que j'ai déjà été avant pour son anniversaire. Je crois que c'était 90 ans ou 95 ans.
Mmh.
Manchester City est allé faire une démonstration avec des autres clubs.
Mmh.
Et je suis parti avec Manchester City. Donc, pour moi, Mandela, ça reste quand même une belle référence. Pourquoi ? Parce que quand on voit tout ce qu'il a subi comme humiliation, et quand on pense que son fils meurt et qu'on l'empêche d'aller enterrer l'enfant, donc fatalement on l'empêche d'aller voir l'enfant partir définitivement.
Ouais.
Donc quand vous avez ça et que cet homme reste toujours humble, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Et on ressent vraiment que cette personne, Nelson Mandela, t'a influencé. Ça se ressent dans tes émotions aussi.
Si. Pour moi, ça a été un très grand homme. Mais après avoir parlé de moi, je me retourne vers Sally. Dis-moi, quelle est la personne inspirante pour toi ?
Alors, moi, la personne inspirante, c'est une personne historique, on va dire, plutôt. J'aime beaucoup lire, et surtout des livres d'histoire. Et donc, je m'intéresse beaucoup aussi à mes origines. J'aime bien savoir d'où je viens. Et donc, d'ici 3-4 ans, j'ai commencé à lire, m'informer, etc. Et je suis tombé sur l'Empire Ottoman. Moi, je suis d'origine turque, donc ça représente beaucoup pour nous. Et quand je regarde dans l'Empire Ottoman, la personne, le sultan qui m'a vraiment inspiré, c'est le sultan Mehmed II. Pourquoi Mehmed II? Parce que c'est la personne qui a déjà conquéri Constantinople, donc la capitale de l'Empire byzantin. Mais sa spécificité, c'est qu'il a, fait ça à 21 ans. À 21 ans, tu pars, tu conquéris la plus grande capitale dans le monde. Et quand je le compare un peu à moi, je me dis que oui, ça demande vraiment beaucoup de courage et de leadership. Mais c'est pas juste ça, c'est ok, d'un côté c'était un bon chef, mais de l'autre côté, c'était une personne très intelligente. Il s'intéressait à l'art, il s'intéressait à la science. Je sais qu'il parle quatre langues, donc le turc ottoman, l'arabe, le latin, le grec. Et donc, pour moi, c'est vraiment une personne dont je prends exemple. Et surtout aussi, au niveau politique, si je peux faire un lien aussi, c'est qu'il était vraiment très respectueux face aux différentes cultures et aux autres religions également. Et pour moi, ça c'est très important. Donc voilà, pour moi, Mehmed II, le conquérant, c'est vraiment un exemple dont je m'inspire aujourd'hui encore dans ma vie, au niveau surtout du leadership et aussi de sa compréhension vis-à-vis des autres cultures. Alors Pierre Compagnie, on arrive à la fin du podcast. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Je sais que ton agenda est vraiment très très chargé. Pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux jeunes?
Oui, si j'avais un dernier mot à dire, je leur dirais que rien n'est impossible s'il y a la volonté. Et la volonté ne suffit pas parce qu'il faut parfois des sacrifices. Mmh. Et pour ce faire, je leur conseille de regarder un peu autour d'eux, voir ce qu'ils peuvent faire de bien pour la société. Sinon, devenez des scientifiques, il n'y a pas de problème. Sinon, devenez des grands commerçants, il n'y a pas de problème. Mais soyez généreux dans tout ce que vous ferez. Voilà.